Merci bien. On aura la suite, la deuxième moitié du couple, dans quelques temps. On va se reposer un peu. Et donc, les enfants peuvent rejoindre leur groupe d'école du dimanche. Et nous terminons nos méditations suivies dans le livre de Néhémie. Alors nous avions déjà commencé le chapitre 13, et donc on l'a coupé un petit peu, donc je vais reprendre certaines choses, mais on va terminer aujourd'hui le chapitre 13 de Néhémie. Donc ceux qui étaient là, on va suivre, ceux qui n'étaient pas là, je vais résumer un petit peu pour bien comprendre ce chapitre. Alors on va lire aujourd'hui à partir du verset 10 jusqu'à la fin. Donc c'est Néhémie qui parle. J'appris aussi que les parts des Lévites n'avaient pas été livrées, que les Lévites et les chantres chargés des offices s'étaient enfuis, chacun dans son champ. Je fis des reproches aux magistrats. Je leur dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Je rassemblai les Lévites et les chantres, je les remis à leur poste. Alors tout Judas apporta dans les magasins la dîme du blé, du vin nouveau, de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shelemia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, à Pédaïa, l'un des Lévites, à côté de Hanan, fils de Zakour, Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire la distribution à leurs frères. Souviens-toi, ô mon Dieu, à cause de cela. Souviens-toi de moi et n'efface pas les actes de piété que j'ai accomplis à l'égard de la maison de Dieu et de ses observances. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le jour du repos, rentrer les germes, les charger sur des ânes, de même que du vin, des raisins, des figues, et toutes sortes de fardeaux, et les amener à Jérusalem le jour du repos. Et je leur donnais des avertissements, le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi les Tyriens qui habitaient là, qui apportaient du poisson et toute espèce de marchandises, et qui les vendaient le jour du repos, aux Judéens et à Jérusalem. Je fis des reproches aux grands de Juda, et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du repos? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Notre Dieu a fait venir tous ses malheurs sur vous et sur cette ville. Et vous, vous augmentez sa colère contre Israël en profanant le repos. Puis, dès que les portes de Jérusalem furent dans l'ombre, avant le repos, je dis de fermer les habitants, les battants, et je dis de ne les ouvrir qu'après ce jour. Je plaçai quelques-uns de mes jeunes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du repos. Alors les marchands, les vendeurs et toutes sortes de produits passèrent la nuit une fois, hein, et même deux hors de Jérusalem. Je les avertis en les disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous recommencez, je porterai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus le jour du repos. Je dis aussi aux Lévites de se purifier, de venir garder les portes pour sanctifier le jour du repos. Pour cela aussi, Seigneur, souviens-toi de moi, ô mon Dieu, et protège-moi selon ta grande bienveillance. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlait l'asdodien et ne savait pas parler judéen. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des reproches. Je les maudis, j'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux. Je les fis leur prêter serment au nom de Dieu, en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, vous ne prendrez pas leurs filles, ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait pas de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous êtes infidèle à votre Dieu en prenant des femmes étrangères ? Un des fils de Yoïada, fils d'Eliashib, donc le souverain sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horonite. Je le chassais loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance des sacrificateurs et des lévites. Je les purifiais de tout étranger, je remis en vigueur ce qui devait observer ce que devaient observer les sacrificateurs et les lévites, chacun dans sa fonction. Et ce qui concernait l'oblation du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Éclaire pour nous ton saint livre, Seigneur, par ton Esprit Saint, et applique-le à nos vies d'aujourd'hui. Amen. Donc nous voilà arrivés à la fin de ce dernier chapitre du livre de Néhémie que nous parcourons depuis le mois de septembre avec des interruptions pour Noël. Et donc Néhémie là est revenu à Jérusalem, on en a parlé déjà un petit peu la semaine passée, après un an d'absence. Il est allé rendre compte à l'empereur de ses travaux. Et donc c'est un retour extrêmement décevant pour lui. Et il est dit au début du chapitre 13 qu'on a lu la semaine passée, « Je vis le mal qu'avait fait Eliashib, le sacrificateur. » Quand Néhémie revient, il voit le mal, et pas seulement donc celui d'Eliashib, mais Néhémie se rend compte d'une multitude de dérives individuelles et communautaire aussi, dans des domaines justement où les gens s'étaient engagés solennellement quelques années auparavant. On est loin du conte de fées. On est loin du conte de fées. On est dans la réalité, une réalité à la fois une réalité brute et brutale. Et il faut parfois très peu de temps pour que les choses dérapent dans la vie. Voilà ce que nous dit ce texte. Et c'est la première idée force que je veux rappeler pour faire la jonction entre les deux prédications. C'est les versets donc, du chapitre 13 du livre de Néhémie nous montrent que dans notre vie chrétienne, comme dans l'histoire du peuple d'Israël, rien n'est jamais acquis. Personne ne peut se reposer sur ses lauriers. Personne, ni un peuple, ni une église, ni une famille, ni un couple, ni même un individu ne peut se reposer sur ses lauriers ou sur son passé, aussi religieux soit-il. Une conversion spectaculaire, un baptême absolument détonnant, magnifique, un réveil miraculeux, un mariage parti sur d'excellentes bases, etc., ne sont pas des garanties pour l'avenir. Le passé ne garantit pas l'avenir. Et c'est le présent qui compte. C'est le présent qui compte. Et c'est ce que l'on fait aujourd'hui de sa vie qui sera déterminant pour l'avenir. Et alors, si le passé n'est pas là une garantie pour l'avenir, que faut-il faire pour vivre donc ce présent qui nous est donné de vivre ? Que faire de ces engagements pris ? Eh bien, il me semble que Néhémie nous le montre dans ce chapitre 13. Il faut tout faire pour garder le cap, d'où le nom de la prédication, le titre de cette prédication qui va jusqu'à la fin du chapitre 13. Il faut tout faire pour garder le cap. Quand on prend la barre, il faut savoir se fixer un cap. Ceux qui ont fait du bateau le savent mieux que moi. Il faut savoir se fixer un cap et le garder. Et première chose à faire pour garder le cap, c'est se rendre compte des dérives et de les observer, de les signaler. Donc d'abord, observer les dérives. Il faut les observer et le faire de près parce qu'elles ne sont pas toujours évidentes. Elles opèrent graduellement. Des petits degrés perdus, les uns après les autres. C'est très subtil. C'est très subtil une dérive dans la vie. La première des dérives que Néhémie observe à Jérusalem a commencé très petitement par des liens familiaux. on en a parlé déjà un peu la semaine passée, que s'est-il passé? Eliashib a juste installé quelqu'un de sa famille dans une chambre, hein, une pièce du temple. Hein. Il a chassé ceux qui faisaient leur travail, les Lévites, hein, qui ne pouvaient plus le faire. Et il a installé quelqu'un, hein, de sa famille, hein, lié, qu'il était par alliance avec lui. Jusqu'à là, on va dire, hein, c'est peut-être pas si grave que ça, sauf que ce parent s'appelle Tobia. Hein, et Tobia, c'est l'ennemi public numéro 2. Hein. Après Sambala, qui est l'ennemi public numéro 1, il y a Tobia l'ammonite. Hein, c'est lui qui se moque, hein, de la construction de la muraille en parlant du renard, hein, qui viendra tout détruire. Hein. Au chapitre 3, au chapitre 6, c'est encore lui qui soudoie un sacrificateur pour piéger Néhémie, hein, qui lui envoie des lettres de menace. C'est ça, Tobia. Et pour ce personnage, eh bien, on enlève les objets, hein, du culte, on empêche les Lévites de faire leur travail, hein, pour faire de la place à ce personnage. Hein, on l'installe confortablement en vue dans le temple même de Dieu. Alors Néhémie dit « Je le prie très mal ». Et Néhémie se rend compte de la dérive et du mal qu'a fait Eliashib. « Comment avez-vous pu ?» dit-il. Et donc c'est l'illustration parfaite de la dérive qui s'installe petitement, sournoisement dans la vie. Une dérive qui commence par un petit lien familial, un manque de fermeté dans tel ou tel domaine, et qui se termine par une occupation du terrain évidente, scandaleuse même. Le péché s'installe sournoisement, mais finit par prendre place certainement. Alors pourquoi est-ce si grave que Tobia ait une chambre dans le temple? Eh bien, ce n'est pas juste une question de location ou d'un contrat de bail mal fait. Non, non, c'est une question de profanation. Alors le terme paraît un peu dépassé, mais ça veut quand même dire quand même quelque chose aujourd'hui, hein, même si on n'a plus de temple en pierre ni d'objet de culte, hein, comme à Jérusalem en ce temps-là. Profaner, ça signifie tenir pour profane quelque chose de sacré, quelque chose de consacré à Dieu. Vous avez quelque chose qui est très important, qui est porteur de sens, et on le considère comme moins que rien, on le considère comme secondaire, comme commun, comme banal, comme habituel. En clair, on s'en contrefiche. Et les autres dérives sont du même acabit. Et ils relèvent aussi de la profanation. On ne va pas s'attarder sur chacun d'eux, on l'a fait il y a 15 jours. L'entretien du temple, le jour du repos, le mariage. Avec des personnes idolâtres. Donc il faut juste rappeler que nous ne pouvons pas faire du copier-coller sur ces trois domaines. Ce sont des questions qui ont bougé depuis la venue de Jésus et avec lui le temps de la grâce. Mais le principe demeure, hein, de ne pas considérer comme moins que rien, comme insignifiant, hein, ou sans importance des choses qui sont très importantes aux yeux de Dieu et pour lesquelles on s'est engagé solennellement devant lui. Voilà donc le contre-exemple, hein, d'Eliashib et de tous ceux qui l'ont suivi. Mais il y a quand même un bon exemple dans ce passage. Au verset 13, pour assurer la gestion des magasins, Néhémie nomme des superviseurs et on peut noter la qualité qu'il leur donne. Ils avaient la réputation d'être fidèles. Voilà. Voilà une belle chose. Ils avaient la réputation d'être fidèles. Susciter la confiance est bien la qualité que l'on attend d'un responsable. Et ce chapitre 13 de Néhémie nous rappelle la nécessité de rester vigilant à cet égard. En effet, nous devrions repenser aux différents engagements pris dans nos vies. Nous pouvons associer à ces engagements pris les engagements non tenus. C'est surtout à cause de cela que la confiance s'évanouit et qu'un scepticisme règne dans notre société. Plein de gens, et de plus en plus, ne tiennent pas leurs engagements. Et les églises ne sont pas épargnées par ce scepticisme. Lors d'assemblées, des décisions sont prises, des engagements sont adoptés, mais ensuite, eh bien, on peut voir finalement peu de chrétiens qui passent aux actes, et les engagements s'effilochent. Néhémie nous le rappelle, soyons sérieux dans nos engagements. Alors que ce soit par un contre-exemple ou par des exemples donnés dans ce chapitre, ce chapitre nous invite donc à un retour sur nous-mêmes. En ce début de février 2021, il se peut que nous soyons en pleine dérive, que nous ayons perdu graduellement, insidieusement, petit à petit, le cap. On n'est pas encore échoué sur la plage, mais on y va tout droit, ou justement en dérive, donc. Et peut-être que ce chapitre 13 est là pour nous ce matin et pour moi aussi, pour nous aider à nous rendre compte de nos dérives personnelles dans notre vie avec Dieu. Mais Néhémie ne restera pas, heureusement, au stade de l'observation. Il va y avoir une réaction. Et c'est notre deuxième point. Après avoir observé les dérives, il va redresser la barre. Redresser la barre. Et donc, devant la multiplicité de ces dérives et la gravité de la situation, on peut imaginer la déception tout d'abord de Néhémie. J'ai travaillé 12 ans parmi ces gens. J'ai formé des responsables, je les ai nommés, je me suis investi. Je pars un an seulement et après c'est le désastre complet, la catastrophe. Et donc la réaction normale de Néhémie serait de dire, eh bien si c'est comme ça, qu'il se débrouille maintenant, j'ai donné assez, j'ai donné assez. Ce serait une réaction tout à fait humaine, qu'on pourrait comprendre quelque part. Et quand ça nous arrive, c'est ce genre de réaction qu'on pourrait avoir. Et il n'y aurait personne pour lui jeter la pierre, ça serait normal. Mais c'est sans compter sur la passion donc, de Néhémie. Il ne s'arrête pas là. Il a une passion pour Dieu, une passion pour les gens. Et il va donc réagir, il va s'investir de nouveau. Mais ce n'est pas facile, même pour un Néhémie. Et dans ce chapitre, on le voit qu'il se tourne souvent vers Dieu. Et donc, il y a trois mentions de sa prière dans ce chapitre spécialement. Parce qu'on est au cœur, à l'apogée du combat. Et l'expression « souviens-toi de moi » que j'ai souligné quand je l'ai lu, eh bien, revient trois fois dans ce chapitre. Alors, vous pouvez le souligner dans vos Bibles, si vous avez encore des Bibles, 14, 22 et 31. Ce n'est pas une parole, alors souviens-toi, ça c'est mal, on peut mal le comprendre. Il y a des commentateurs qui tirent à côté, on va dire. Souviens-toi de moi, ça ne c'est pas une parole d'autosatisfaction ou d'autoproclamation qui demanderait une récompense. J'ai fait tant de choses pour toi, voilà, c'est à toi de faire des choses pour moi. Non, c'est bien un appel à l'aide dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand on dit « souviens-toi de moi », quand on appelle au souvenir de Dieu, c'est jamais un appel à la récompense, mais c'est un appel à l'intervention de Dieu. Donc « souviens-toi de moi, Seigneur », ça veut dire « Dieu intervient dans ma vie ». Intervient dans ma vie. Et parce que c'est difficile, intervient dans ma vie parce que c'est difficile de revenir dans ce combat que je dois affronter maintenant. Souviens-toi de moi et interviens dans mon cœur aussi, à moi, Néhémie, pour me donner de l'énergie, pour me donner la grâce de reprendre la barre dans cette tempête. Oui, souviens-toi de moi, interviens dans ma vie, interviens dans mon cœur. Donc c'est ça le sens de sa prière. Et fort de cet appel à l'intervention souveraine de Dieu, Néhémie va réagir par rapport aux dérives. Alors il va le faire fortement, et on peut le dire même violemment. La violence du coup de barre va dépendre évidemment de la gravité de la dérive. Il y a des moments où il faut agir brusquement. On voit des films à la télé, des attaques de sous-marins, de toutes sortes de batailles entre navires. Il y a un moment où il faut réagir vivement pour éviter le tir ennemi. On peut le comprendre. Mais parfois aussi, il faut redresser avec douceur aussi les choses. Il faut agir de façon progressive, souvent, et dans d'autres cas. Mais c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie, quand la situation est grave, quand on est vraiment mal embarqué, il y a des moments dans la vie, il faut savoir réagir avec force. Et donc, Néhémie dans ce moment-là. Si on regarde le Nouveau Testament, on voit Jésus, hein, le Seigneur Jésus, montrer l'exemple aussi en prenant un fouet dans le temple de Jérusalem, en renversant les tables des changeurs de pièces, une scène d'une violence inouïe également. Jésus peut devenir violent quand il voit un temple profané, ridiculisé, négligé. Et quand il y a profanation, Jésus peut devenir donc violent. Et ses disciples ont dit, ôtez cela d'ici, c'est la maison de mon Père, n'en faites pas une maison de commerce. Jean 2, 16 par exemple. Et la parole de Dieu ne met pas cela sur le compte d'un comportement pécheur, colérique, d'une colère pécheresse, non. Mais sur la passion de Jésus pour la maison de Dieu, pour la foi et contre l'hypocrisie de ses contemporains. Et les disciples se sont souvenus alors de ce passage de l'Écriture, « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui se consume. » On voit ça en Jean 2, 17. Donc c'est cela qui motive Jésus. C'est cela aussi qui motive à un autre niveau, bien sûr, Néhémie, qui va aussi réagir en envoyant les affaires de Tobia par la fenêtre, versets 8 et 9. Mais donc pour Tobia, ça s'imposait, on va dire. Toutes ces affaires devaient passer par-dessus, par la fenêtre. Pas de demi-mesure, Néhémie n'essaye même pas de garder de l'amitié pour Tobia ou même Eliashib. Mais en ce qui concerne donc le sabbat, verset 17, Néhémie va prendre là aussi des mesures radicales. Il va fermer les portes de la ville, poster des gardes. Ça veut dire que des dizaines de marchands vont passer la nuit dehors. On imagine les doléances et la perte financière. Et pour les mariages mixtes, donc, Néhémie va mettre le paquet aussi. Il ne va pas couper les cheveux en quatre, il va les arracher. J'avais peur qu'on me les arrache, donc je les ai fait couper avant. Non, et il est dit, j'en frappais quelques-uns et je leur arrachais les cheveux. Verset 25. Alors, on ne peut s'empêcher d'esquisser quand même un sourire devant cette scène. Néhémie arrache les cheveux, on se dit qu'il va un peu trop loin, un peu trop loin. Alors, il faut d'abord dire que la Bible raconte des événements. Elle raconte, et c'est vrai pour d'autres pages que nous pouvons lire dans notre culte quotidien, si on lit la Bible de façon suivie, il faut dire que la Bible raconte des événements. Là, en l'occurrence, Néhémie écrit ses mémoires. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait est digne d'approbation. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait, il faut l'imiter. Ce serait encore une fois aplatir le texte que de dire que si Néhémie a fait cela, je peux moi aussi faire pareil à mon niveau. Je peux me crêper le chignon avec le premier venu qui ne pense pas comme moi, ou alors je peux jeter les habits de mon gendre par la fenêtre parce qu'il ne vient pas à l'église, etc. etc. Non, ce seraient des interprétations qui nivellent, qui aplatissent le texte biblique. Il faut toujours replacer le texte dans son contexte historique et théologique. Et nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec des mœurs et des comportements un peu plus rugueux qu'aujourd'hui. À l'époque, le peuple d'Israël se trouve encore sous le régime de l'Ancienne Alliance, avec toute l'importance de la loi, alors que nous sommes aujourd'hui sous la grâce en Jésus-Christ, dans ce repos éternel avec Dieu. Mais le principe d'une réponse radicale à nos compromissions, à nos petites dérives personnelles demeure. Dans cette lutte contre le mal qui vient sournoisement, subtilement, et qui fait dériver toute une vie, il faut réagir radicalement. Il faut donner de fameux coups de barre, bien souvent. Et tous les termes du Nouveau Testament, en ce qui concerne la lutte contre le péché, s'accordent avec le vocabulaire de l'Ancien Testament. Jésus parle d'arracher. Il n'y a qu'à relire l'Évangile, où vous soulignez tous ces mots. Il parle d'arracher, de couper, de jeter. Il disait, si ton œil est pour toi une occasion de chute, sois radical. Vas-y, arrache-le. Si ta main de même, coupe-la. Bon, allez, Matthieu 5, 29. Mais on peut citer beaucoup d'autres textes. Les apôtres parlent de repousser, de faire mourir de combattre, d'expulser. Et c'est le même vocabulaire dans ce domaine de la lutte contre les dérives dans la vie. Il faut être intransigeant en ce qui concerne le maintien du cap dans la vie. Il faut jeter toutes ses forces, toute son énergie dans la lutte donc, contre la dérive, toute la violence, toute sa violence. Alors vient ce verset mal compris de Matthieu 11, 12. Le royaume de Dieu est présent et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors c'est un texte qui interroge toujours quand on le lit, et pour la première fois et même après. On met souvent du temps à comprendre ce texte. Jésus ne nous appelle quand même pas à la violence. Dans son sermon sur la montagne, il dit « Heureux les artisans, les faiseurs de paix ». Mais on peut comprendre ainsi ce que disait Jésus. Le royaume de Dieu, qui est notre cap, notre but à nous, appartient à ceux qui savent se faire violence, pour maintenir le cap dans leur vie. On se souvient de cette autre parole de Jésus dans le même sermon sur la montagne, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». Donc à ceux qui savent prendre des décisions radicales dans leur propre vie, c'est bien de cela dont il est question ici. Il ne s'agit pas d'utiliser la violence contre d'autres personnes, mais il s'agit de se faire violence à soi-même pour redresser la barre de sa propre vie. Et donc en ce qui nous concerne, pas de quartier, en ce qui nous concerne, à l'abordage, c'est un abordage régulier. Et donc Néhémie et Jésus nous appellent à la radicalité. Il nous faut redresser la barre pour redresser certaines habitudes qui se sont installées sournoisement, qui grignotent notre consécration à Dieu, pour repousser quelques profanations dont on a le secret, pour lutter contre quelques « je m'en fiche, ça n'a pas d'importance ». Ce n'est pas très grave, mais tous ces je m'en fiche qui entament notre foi. Il faut se débarrasser de ça pour se défaire de quelques solutions qui nous facilitent la vie, mais qui pourrissent des relations. Chacun aura des domaines de dérive particuliers. On pourrait citer des biographies de chrétiens célèbres qui ont pris des décisions radicales, mais s'éloigner de notre vie et les appliquer à nous, ça pourrait être dangereux aussi. Non, chacun aura ses domaines de dérive qui lui sont propres. Et c'est à chacun d'essayer de désigner les choses et de redresser les choses, bien sûr par la grâce de Dieu. Et donc, on peut redresser donc la barre de sa vie et de sa relation avec lui. Alors, peut-être il est parfois bon de parler avec quelqu'un. Une seule personne suffit qui pourra nous demander et nous suivre avec nous la suite de l'histoire. Mais en tout cas, soyons, en cette année qui est commencée d'un mois, soyons radicaux avec nous-mêmes afin de marcher non pas, bien sûr, dans l'intégrisme, mais dans l'intégrité. Ça, c'est un mot dont on ne doit pas avoir peur. L'intégrité. Alors, en conclusion, je veux revenir sur un point qui a été cité, c'est Salomon. On le voit dans le texte, on parle de Salomon, au verset 26. Donc, Néhémie, il y a déjà 500 ans que Salomon a vécu ces choses mauvaises. Et nous, ça fait encore plus. Mais Néhémie rappelle l'exemple brûlant de Salomon. Il recourt à un exemple connu pour avertir ses compatriotes. Si l'un des plus grands rois d'Israël a mal fini à cause de l'influence de ses épouses non-croyantes, eux ne peuvent pas avoir la prétention de faire mieux que lui. Il avait tout. Il avait l'éducation, l'intelligence et même une vie spirituelle. Et son expérience confirme que nos talents, nos forces en nous sont d'aucun avantage si nous ne parvenons pas à maîtriser nos faiblesses. Salomon a beau avoir été un grand souverain, ses mariages idolâtres ont causé la perte de tout son royaume. Et quand nous identifions en nous une tendance au mal, nous devons le plus rapidement possible la traiter. Autrement, elle risque de nous dominer, de nous faire chuter. Souviens-toi de Salomon, hein, nous dit ce texte. Et donc, c'est une bonne raison de lire la Bible. Hein. C'est de découvrir des erreurs commises par des grands hommes de Dieu et par le peuple de Dieu pour ne plus les répéter. Donc ça, c'est une première conclusion. Une deuxième conclusion, si je reviens sur ce « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu ». Ce qui signifie, je vous le rappelle, « Interviens, Seigneur, dans ma vie ». Si toutes nos histoires pouvaient se terminer et commencer par « Interviens, Seigneur, dans ma vie, souviens-toi de moi favorablement, ô notre Dieu ». Oui, pour le dire autrement, avec le psaume 106, verset 4, « Seigneur, interviens dans ma vie, donne la force d'agir ». Ça, c'est une belle prière. Psaume 106, verset 4. « Seigneur, interviens dans ma vie, donne la force d'agir ». Alors que l'Esprit de Dieu nous aide aussi dans notre marche avec le Christ et dans notre combat contre le péché. Amen.